Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais, en cette belle journée de Pâques, vous souhaiter à tous une sainte fête de Pâques, de mettre en votre cœur, en votre âme, l'esprit de Pâques, à savoir l'esprit de joie, l'esprit de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais en cette fête de Pâques toucher un sujet qui n'est peut-être pas directement lié à la fête de Pâques, mais comme c'est lié à la Semaine Sainte, je voudrais en parler aujourd'hui. En tant que prêtre depuis maintenant presque 40 ans, j'ai été ordonné le 29 juin 1979, j'ai toujours célébré la Semaine Sainte d'après le rituel de 1955 du pape Pie XII. C'est que nous suivons déjà au séminaire d'Écône. Et Pie XII a institué cette réforme de la Semaine Sainte en 1955. Et il est à la mode dans les milieux cérébracantistes de considérer la réforme de 1955 comme une réforme moderniste. Les gens, en gros, vous disent, vous célébrez la Semaine Sainte de 1955 du pape Pie XII, donc vous êtes un moderniste. Alors, je voudrais remettre un peu les pendules à l'heure sur ce sujet. En tant que célibataire, je considère que depuis la mort du pape Pie XII, il n'y a plus de pape. Cependant, Pie XII était pape. Pour moi, c'est indéniable. Pie XII étant pape, nous avons l'obligation d'accepter l'enseignement de Pie XII. Puisque je crois en tant que catholique, en tant que prêtre catholique, que le pape est infaillible dans son magistère ordinaire et son magistère extraordinaire. Lorsqu'il parle de la foi et des mœurs. Parce que, avec l'intention d'obliger toute l'Église, il parle sur la foi et les mœurs. En tant que pape, il est infaillible. Donc le pape est infaillible aussi dans ses modifications liturgiques. Alors il est de bon ton dans les milieux célébracantistes de considérer que toute réforme est mauvaise. C'est faux. L'Église s'est réformée au cours des siècles plusieurs fois. Le pape Saint-Pilice, par exemple, a réformé le bréviaire de Léon XIII. Le bréviaire que je dis tous les matins, c'est le bréviaire de Saint Pie X et pas le bréviaire de Léon XIII. Il y a eu au cours des siècles des modifications, des réformes de l'Église. Le pape Saint Pie V, par exemple, a réformé complètement le missel romain en 1570 pour instituer le missel actuel que j'utilise tous les matins. Alors, je voudrais répondre à cette question. Avons-nous le droit, en tant que prêtre, de refuser la réforme du pape Pie XII de 1955 concernant la Semaine Sainte, et de suivre l'ancienne Semaine Sainte d'avant le pape Pie XII. À l'époque, le carême se terminait le samedi saint, au matin. Il y avait le matin le feu pascal, et on chantait le chant de l'Exultet au Beata Nox, aux nuits bienheureuses, à 9 h du matin, ce qui n'était pas normal. Donc le pape Pie XII, avec raison, a remis les choses en place en disant attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts le samedi matin, mais le dimanche de Pâques. Et donc, il a institué la messe pascale, la messe de la nuit, quelque chose de nouveau sur bien des plans. Et je crois que nous avons l'obligation, sous peine de péché, de suivre la réforme du pape Pie XII parce qu'il est pape. Alors, je voudrais rapidement, avant de rentrer un peu plus dans les détails, vous rappelez tout simplement le magistère de l'Église sur le sujet. Donc l'Église catholique enseigne, je vous rappelle, que le pape est infaillible tant dans son magistère ordinaire que dans son magistère extraordinaire. Donc il n'est pas possible qu'un pape puisse errer dans l'un ou l'autre magistère. Or les hommes qui sont sous le siège apostolique de Saint-Pierre depuis la mort du pape Pie XII, qui prétendent être sur le siège apostolique de Saint-Pierre depuis la mort du pape Pie XII en 1958, ont erré, surtout dans le magistère ordinaire ou extraordinaire, en contredisant le magistère antérieur. Notre Seigneur ne pouvant nous mentir, il n'est donc pas possible que ces hommes qui prétendent être pape le soient. Ils ne doivent donc pas être nommés au canon de la messe. C'est pour ça que je suis cédevacantiste, c'est-à-dire je considère que le siège de Saint-Pierre est vacant depuis la mort du pape Pie XII en 1958. Je vous rappelle les textes conséquents du magistère sur le sujet. Donc, le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain, les évêques en communion avec lui. Ça, c'est le pape Pie XI dans Mortalium Animos. On doit croire, Concile Vatican I, donc en 1870, constitution dogmatique sur la foi catholique, on doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Donc le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs, tant dans son magistère ordinaire que son magistère extraordinaire. Autre texte de Vatican Ier, 1870, pape Pie IX. Le pape parle ex cathedra, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les catholiques, quand il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi et les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Le pape jouit alors, par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Concile Vatican I. Et lorsque le pape parle, Pie XII est pape, il parle, nous avons l'obligation d'obéir. Le pape Boniface VIII enseignait déjà, en son temps, l'obéissance au souverain pontife est nécessaire au salut. Personne ne peut se sauver en désobéissant au pape. Alors qu'on ne vienne pas me dire ce que j'entends beaucoup trop souvent dans les milieux célévacantistes, oui, mais actuellement il y a une crise telle dans l'Église qu'on fait ce qu'on veut. Non. Plus que jamais aujourd'hui, il nous faut obéir au pape légitime. Les papes sont légitimes jusqu'à la mort du pape Pie XII, donc on obéit à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils voulaient. Dans cette unique Église du Christ, personne ne demeure si, par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Encore une fois, Pie XI, Mortalium Animos. Le chef de l'Église est Jésus-Christ qui demeure dans le ciel et qui continue à maintenir son Église dans son être, dans sa structure, dans sa mission. Notre Seigneur gouverne par le pape, mais c'est le Christ qui gouverne. Donc, jusqu'à Pie XII inclus, mort de Pie XII 1958, il y a un pape, nous sommes tenus moralement de suivre ce qu'il demande. L'Église ne révèle rien du tout, mais peut garantir infailliblement que telle vérité fait partie du dépôt révélé, que telle autre lui est nécessairement liée, que telle proposition n'est pas compatible avec la foi. Elle peut aussi montrer que cette vérité concerne tel domaine, qu'elle doit s'entendre de telle manière, elle peut condamner telle proposition comme directement ou indirectement contraire à la révélation divine. Je prends ces textes surtout des lettres que j'ai publiées dans le site, sur le site d'Âme Marie, toutes les lettres 64 et 65. Donc vous pouvez retrouver sur le site en question. Le magistère ordinaire universel présente infailliblement l'objet de la foi. Et tout fidèle doit croire de foi divine tout ce qui est présenté comme révélé. L'Église est appelée infaillible dans sa discipline, dans le sens que dans ses lois disciplinaires, il ne peut rien se trouver qui soit opposé à la foi divine ou qui puisse agir au détriment de l'Église ou au préjudice des fidèles. Donc quand le pape Pie XII, en 1955, nous impose une réforme de la semaine sainte, il y a l'obligation d'obéir parce que c'est Dieu qui nous parle. L'Église est infaillible dans sa discipline, regardant la foi et les bonnes mœurs. La mission de l'Église est de conserver intègre la foi et de mener le peuple au salut en leur apprenant à observer tout ce que le Christ a commandé, tout ce que le Christ a ordonné. Mais si en matière disciplinaire, elle pouvait stipuler, imposer ou tolérer ce qui est contraire à la foi aux mœurs ou ce qui tournerait au détriment de l'Église ou au préjudice des peuples, l'Église pourrait dévier de sa mission divine, ce qui est impossible. Jésus-Christ dit Léon XIII, le pape Léon XIII dans Satis Cognitum, Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, conformé par des miracles, il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus, comme les siens propres. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Ceci est valable tant que nous avons un pape. Or, nous sommes sûrs d'avoir un pape jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958. Donc nous avons l'obligation de reconnaître que les paroles du pape Pie XII jusqu'en 1958 sur la foi et les mœurs représentent les paroles de Dieu à nous adressées. Lorsque l'Église, soit par un jugement solennel, soit dans l'exercice de son magistère ordinaire universel, déclare quelle est la loi divine, elle est doctrinalement infaillible. Ce qu'elle enseigne est vraiment la loi divine révélée directement ou indirectement par Dieu. Donc je vous rappelle, encore une fois, je fais un résumé ici en quelques minutes de la doctrine de l'Église sur la question. Le pape jouit de l'assistance absolue du Saint-Esprit pour les cas dont l'infaillibilité est garantie. Infaillibilité doctrinale de l'enseignement ex cathedra, infaillibilité doctrinale lorsqu'il s'adjoint l'ensemble des évêques, infaillibilité pratique et donc indirectement doctrinale dans la promulgation des lois de l'Église universelle, la reconnaissance des ordres religieux, la canonisation des saints, la constitution des rites liturgiques. Donc le pape Pie XII qui modifie en 1955 la semaine pascale, qui l'impose à tous les fidèles comme une obligation, parce que contrairement à ce que certains adventistes disent, cette réforme du pape Pie XII en 1955 est d'obligation, il faut obéir. Alors, je voudrais déjà répondre à certaines objections qu'on entend beaucoup trop souvent. Les gens me disent, oui, mais vous comprenez, monsieur l'abbé, la réforme du pape Pie XII de 1955, elle a été préparée par le cardinal Béat et par Bonini, monseigneur Bonini, donc ce sont des modernistes, donc cette réforme est moderniste. La question n'est pas là, mes bien chers frères. Il faut savoir répondre à une question. Oui ou non, cette réforme a-t-elle été imposée par le pape Pie XII, pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, responsable de garder le dépôt de la foi? Il est pape, oui ou non? Oui. Alors, si vous voulez que je dise l'ancienne version de la Semaine Sainte d'avant Pie XII, celle de Saint Pie X, il faut d'abord me prouver que Pie XII n'était pas pape. Or, Pie XII est pape. Si le pape Pie XII est pape, nous sommes tenus sous peine de péché d'obéir à ses lois liturgiques. Et si nous n'obéissons pas aux lois liturgiques imposées par le pape Pie XII en tant que pape, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que nous nous éloignons de l'enseignement de l'Église. C'est un péché grave contre la foi et c'est ce qui conduit au schisme. Mes bien chers amis, je ne veux pas devenir schismatique. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit la Semaine Sainte avec les réformes de Pie XII, du pape Pie XII. Et je refuse catégoriquement de suivre les anciennes réformes d'avant le pape Pie XII parce que Pie XII est intervenu, que Pie XII est pape et que nous sommes tenus en tant que prêtres à suivre le pape légitime. Or, jusqu'à preuve du contraire, Pie XII était pape légitime, donc nous sommes tenus de le suivre. L'argument que nous entendons très souvent, que ces textes de la nouvelle Semaine Sainte du pape Pie XII de 1955 ont été préparés par le pape, par Mgr Bonini et par Mgr le cardinal Béat, ne valent rien. Encore une fois, à partir du moment où le pape les a acceptés avec son autorité pontificale, nous sommes obligés de les suivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais que ça veut dire que tout ce qu'il écrit est mauvais. Je vous donne un exemple tout simple. Le cardinal Gaspari, par exemple. On dit qu'il a été franc-maçon. Malheureusement, c'est sans doute vrai. Cependant, son catéchisme, qu'on appelle le catéchisme du cardinal Gaspari, est excellent. Je l'utilise moi-même régulièrement dans les cours que je donne. Je crois que c'est même le père Barbara, qui n'était pourtant pas un libéral, loin de là, qu'il avait réédité. Et donc, même si le cardinal Gaspari était peut-être quelqu'un qui avait malheureusement, hélas, donné son nom à la franc-maçonnerie, il n'empêche que son catéchisme est excellent, j'ai le droit d'utiliser. Et c'est pareil pour tout. Lorsque l'Église catholique condamne un livre dans le catalogue de l'index, elle ne se préoccupe pas de savoir qui l'a écrit. Le livre, objectivement, est mauvais, il est condamné au moins pour les parties qui sont mauvaises. Et jusqu'à ce que les parties mauvaises aient été corrigées, un catholique n'a pas le droit de lire ce livre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mes bien chers frères? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'esprit? Quel est ce qui pivote en quelque sorte, ce qui mène l'esprit des cédévacantistes qui veulent absolument être plus royalistes que le roi et qui disent qu'on n'a pas le droit de suivre la réforme du pape Pie XII en 1955 et qu'il faut donc revenir aux réformes antérieures parce que toute réforme est mauvaise? C'est l'esprit protestant, mes bien chers frères. Un esprit protestant, un esprit subjectiviste qui consiste à dire j'aime Cette réforme, donc, je la suis. Cette réforme ne me plaît pas, donc je ne la suis pas. Cette réforme ne me plaît pas, donc elle n'est pas de Dieu. Vous prenez pour qui? Pour le bon Dieu? Donc attention à ce subjectivisme qui est à la base du problème. Ce subjectivisme consiste à croire que c'est ma pensée qui fait ma propre vérité. Alors j'admets, la nouvelle réforme du pape XII ne me plaît pas, parce qu'elle a été soi-disant écrite et préparée en partie au moins par le cardinal Béat et Monseigneur Bonini, donc je la refuse. Non, mais attendez, elle a été avalisée, elle a été acceptée, officialisée, rendue obligatoire par le pape Pie XII, qui est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dont le rôle est de garder le dépôt de la foi. Si je désobéis au pape légitime, je pèche gravement, parce que l'obéissance au souverain pontife est nécessaire au salut, mes bien chers frères. Alors attention à cet état d'esprit qui n'est pas du tout l'esprit catholique, c'était cet esprit subjectiviste qui est un esprit moderniste. Je fais ma propre vérité, j'interprète telle chose selon ma vérité. Je reçois régulièrement des messages de personnes qui prétendent que le pape Pie VII était pas vraiment pape parce que vous comprenez, avec le concordat avec Napoléon, il a accepté le mariage, soi-disant ce qu'on appelle le mariage civil, qui n'est pas un mariage civil, parce que le mariage civil pour un catholique n'existe pas, mais la constitution civile, si vous voulez, du mariage. Et certaines personnes disent donc Pie VII est papa. On va où comme ça? On va redescendre jusqu'à Saint-Pierre. Alors attention, mes bien chers frères, à garder l'esprit de l'Église. Je profite de cette fête de Pâques, juste à la fin de la Semaine Sainte, que j'ai célébrée selon le rite du pape Pie XII. Je profite de cette occasion qui m'est donnée de vous demander de faire attention à ça, parce que c'est malheureusement le cas pour pratiquement tous les prêtres cédévacantistes. Il y en a très peu qui, à ma connaissance, ne sont pas tombés dans le panneau. Et beaucoup de prêtres cédévacantistes, que ce soit les prêtres américains ou même beaucoup de prêtres italiens, qui sont des prêtres véritablement prêtres, attention, je ne veux pas attaquer les personnes, mais qui refusent la réforme du pape Pie XII sous prétexte que elle leur plaît pas, tout simplement. Le pape Pie XII étant pape, ses modifications liturgiques obligent sous peine de péché. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors, qu'on vient de pas me dire ce qu'on m'a dit il y a pas plus tard que ce matin, quelqu'un m'a écrit un message justement dans ce domaine en disant si. Comprenez, si vous acceptez, si vous prêchez comme ça veut dire qu'il faut accepter aussi la réforme du pape, pas du pape, de Montigny en 1969 avec la nouvelle messe, qu'il faut accepter tout l'esprit de Vatican II, etc. Mais pas du tout. Pie XII était pape, Paul VI n'était pas pape. Pie XII était pape, Jean-Paul Ier n'était pas pape. Donc je n'accepte pas le nouveau code de droit canonique de 1914-83, je n'accepte pas la nouvelle messe de 1969, je n'accepte pas les nouveaux enseignements de Vatican II de 1962 à 1965, surtout concernant l'œcuménisme, concernant la liberté religieuse, concernant l'introduction dans l'esprit de l'Église, si vous voulez, de la liberté, l'égalité, la fraternité, la Révolution française. Donc je n'accepte pas toutes ces choses-là. Je n'accepte pas la collégialité, par exemple, à cause de ça. Mais je considère, en tant que prêtre catholique, que Pie XII était pape, et donc a le droit, en tant que pape, de m'imposer certaines choses, même si elles ne me plaisent pas. Quand les gens me disent, est-ce que vous préférez l'ancienne Semaine Sainte ou la nouvelle Semaine Sainte du pape Pie XII? Je préfère l'ancienne. Alors pourquoi vous ne la dites pas? Parce que Pie XII est passé, et Pie XII est pape, et m'impose quelque chose qui ne me plaît pas, mais que je suis obligé de dire, parce que cette nouvelle semaine sainte ne va en tant que telle ni contre la foi ni contre les mœurs. Il n'y a rien de la nouvelle semaine sainte du pape Pie XII de 1955, rien qui aille contre la foi et les mœurs. Donc il y a l'obligation, sous peine de péché, de suivre l'enseignement du pontife véritable qu'était le pape Pie XII. Et si je refuse d'obéir au pape Pie XII, je pèche gravement contre la foi et je tombe dans un esprit schismatique. Je sais que j'ai choqué certaines personnes en disant que si je refusais la nouvelle semaine sainte du pape Pie XII, eh bien je tomberais dans le schisme, mais c'est exactement ce que je pense. Donc attention, mes bien chers frères, à toutes ces choses-là. Une fois, quelqu'un m'a dit, c'est bien, on est dans la crise de l'Église actuelle, il n'y a pas de crise de l'Église, mais c'est ce qu'il me disait, c'est bien d'être dans la crise de l'Église actuelle parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Bien non, justement. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons obéir. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Donc je vous demande, mes bien chers frères, de faire un petit peu attention à cet état d'esprit. Si j'écoutais certaines personnes, il faudrait pratiquement redescendre pratiquement à Saint-Pierre. Hein? Le pape Léon XIII avait fait certaines modifications du bréviaire, le pape Pie XII a repris ces modifications, a fait une nouvelle réforme. Eh bien, on est obligé de suivre cette réforme, tout simplement. Encore une fois, mes bien chers frères, gardons l'esprit d'Église, et si nous gardons l'esprit d'Église, nous gardons notre Seigneur Jésus-Christ en nous. C'est ça l'esprit de Pâques. L'esprit de Pâques, c'est un esprit d'obéissance. L'esprit de Pâques, c'est un esprit de respect de la personne du souverain pontife. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des clowns à la place d'un souverain pontife. Mais nous avons des véritables souverains pontifs, jusqu'au pape Pie XII inclus. Nous avons donc l'obligation de suivre son enseignement, même s'il ne nous plaît pas. On aurait peut-être parfois l'impression de dire qu'il y a des oppositions, des contradictions entre l'enseignement, par exemple, du pape Pie XI dans Castico Nubi sur le mariage chrétien et l'enseignement du pape Pie XII au discours aux sages-femmes de 1951, d'octobre 51. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'opposition tout simplement parce que Pie XI est pape et que Pie XII est aussi pape. Et donc c'est le démon qui cherche à mettre la confusion dans nos âmes. En tant que catholiques, nous devons réagir, refuser cette division causée par le démon pour garder ce que l'Église a toujours gardé. Nous sommes fils de l'Église parce que nous sommes fils de la tradition. Cette tradition est vivante jusqu'à la mort du pape Pie XII. Malheureusement, depuis le modernisme de ceux qui ont succédé au pape Pie XII, qui se sont opposés à l'enseignement de l'Église, là c'est autre chose. C'est pour ça que je ne crois pas que Jean XXIII soit pape, je ne crois pas que tous les successeurs de Jean XXIII soient pape. Par contre, jusqu'à la mort du pape Pie XII, il est pape, ils sont papes, donc nous avons l'obligation de leur obéir, même comme ça, quand ça ne nous plaît pas, surtout en ce qui concerne la nouvelle semaine sainte. Donc je continue, je signe et je persévère qu'il nous faut, en tant que prêtre, nous avons l'obligation morale d'accepter les réformes du pape Pie XII, tout simplement pour rester dans l'Église, rester dans l'esprit d'Église. En demandant, mes bien chers frères, à notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui à cette fête de Pâques, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner l'esprit d'Église. Et l'esprit d'Église, elle passe pas simplement par notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle passe par sa mère. Gardez une dévotion à la Sainte Vierge, mes bien chers frères, et gardant la très Sainte Vierge Marie en votre cœur, vous garderez le Fils. Là où est la mère, il y a le Fils. Là où est le Fils, il y a la mère. Là où la reine de l'Église est, là le Christ roi est, là où Christ roi est, la reine de l'Église est aussi. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces à la très Sainte Vierge Marie, par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie, pour garder l'esprit de Pâques, qui est un esprit d'obéissance, un esprit d'humilité, un esprit de joie et un esprit de paix. Et l'obéissance, la véritable obéissance au pape légitime, nous donnera la paix et la joie que le démon ne peut pas donner, que le monde ne peut pas donner, et que le démon et le monde ne peuvent pas détruire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.